En tout cas, merci à Pascal et son épouse et à l'Église de nous avoir invités ce matin. Nous sommes dans la joie avec Tina de vous faire cette visite. Et gloire à Dieu pour le beau temps qu'on a eu cette semaine. Hein? Je crois qu'on a des raisons pour lesquelles remercier le Seigneur avec le magnifique temps, ce n'est pas habituel en avril. Mais à part le temps, le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Et je crois que ce matin, nous sommes venus non seulement pour adorer le Seigneur, non seulement pour être ensemble, mais également pour être à l'écoute. Et être à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous dire. Je crois que c'est important que nous, en tant que peuple de Dieu, on soit à l'écoute à l'église, mais également à la maison lorsque nous sommes dans notre moment intime avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Votre pasteur, quand il m'a fait l'invitation, je devais venir il y a une quinzaine de jours, c'est ça, hein? Eh bien, 15 jours, 3 semaines, et ben, je revenais juste d'un long voyage. J'étais parti pendant plusieurs semaines de l'autre côté de la planète. Et pendant que vous aviez très froid ici, moi j'avais très chaud là-bas. Et alors que j'étais là-bas, dans ce pays, en Australie, je suis arrivé à une conférence où le thème m'a interpellé. Et le thème, c'était « demander », tout simplement, « demander ». Et pendant toute cette semaine de conférence, tout tournait autour de demander. Et je crois qu'on a, ça m'a interpellé de voir combien on peut parler sur simplement cette parole demande, demander. Vous savez que la parole de Dieu nous exhorte pas simplement à recevoir gratuitement la grâce, elle est gratuite. L'évangile est gratuit, je crois pas qu'on vous fait payer en entrant ici, hein? Mais on vous dit, voilà, rentrez, c'est libre, c'est gratuit, tout est gratuit. Mais il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu qui nous demandent aussi de faire un pas vers Dieu. La grâce, c'est Dieu qui répand son amour, qui répand son pardon, qui nous appelle, c'est la part de Dieu. Mais notre part, c'est d'aller vers lui avec une attente, avec une demande. Et le nombre de personnes qui sont venues vers Jésus en suppliant Jésus, en disant « Jésus, aie pitié de moi » ou « Seigneur, touche-moi » ou « Seigneur, guéris-moi », c'était une démarche de l'homme vers Dieu. Et dans le processus de conversion, vous avez remarqué qu'on a beau prêcher l'évangile, on a beau faire des appels, mais s'il n'y a pas une réponse de l'individu vers la voix de Dieu, eh bien l'individu va rester tel qu'il est et ne changera pas ni dans sa vie, ni dans sa rencontre avec Dieu. Et donc c'est important qu'il y ait aussi, de mon côté, une recherche, une demande. Ce n'est pas le thème de mon message ce matin, mais je voulais simplement vous donner une petite pensée par rapport à ce que Dieu nous a parlé là-bas lorsque j'étais en mission. Alors, ce matin, nous allons nous tenir devant Dieu et on va dire, Seigneur, je veux que tu me parles, je veux que tu me bénisses, mais je veux aussi aller vers toi. Et je vais aller à la rencontre de quelque chose que tu as envoyé. Vous savez, vous êtes venu dans ce culte avec peut-être un fardeau, une demande, une souffrance. Quelque chose qui est dans votre cœur. Eh bien, avant même que vous ne receviez quoi que ce soit, Dieu a déjà envoyé la réponse. Est-ce que vous croyez ça? La Bible nous dit que Dieu nous a sauvés et nous a préparé de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres sont préparées d'avance. Elles sont déjà là, empaquetées. Il suffit qu'on aille et qu'on prenne ce que Dieu nous a préparé. Notre conversion, ma conversion, Dieu savait déjà le jour, l'heure, le moment, l'endroit où ça allait se passer. C'est ça l'omniscience de Dieu. Alors quand on vient à un culte, eh bien Dieu a déjà préparé tous les colis pour nous. Il y en a certains qui les prennent, il y en a d'autres qui repartent et les colis sont là. Ils sont restés. On ne les a pas pris. Donc ce matin, on va venir et prendre le colis de Dieu qu'il a préparé pour nous. Alors j'aimerais lire un texte avec vous. Tout d'abord, je vous apporte les salutations de l'Église. Chaque fois que je vais dans une église pour prêcher l'Évangile, je prends aussi les salutations d'Église. Et on est associés là. Ce matin, on est dans un seul culte. Grasse-Sologne et Bois-de-Villers sont unis ensemble dans un même élan et dans un même désir de recevoir la grâce de Dieu. Alléluia. Acte 4, verset 1 et verset 13 plutôt. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes de peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et j'ai intitulé cette parole ce matin, ce message ce matin, « Sous quelle autorité es-tu ?» Et donc on va un petit peu voir ensemble quelle est l'autorité qui est au-dessus de nous. Vous savez, quand Jésus a déclaré « Nul ne peut servir deux maîtres ou il va être attaché à l'un ou attaché à l'autre. » Mais il ne peut pas être attaché à deux maîtres. Il déclarait tout simplement qu'il y avait deux autorités, deux maîtres. Et on sait qu'il y a l'autorité de Dieu. Et mon désir et ma prière, c'est que vous soyez sous cette autorité aujourd'hui. Mais qu'il y a aussi l'autorité du diable. Et des millions de personnes sont sous cette autorité. Et il n'y a pas de troisième autorité. Vous savez, on est dans une époque, et ceux qui sont dans l'enseignement ou dans tout ce qui est intellectuel aujourd'hui, vous savez qu'on parle beaucoup de neutralité. Hein, la neutralité. Et on veut que ceux qui officient, que ce soit au gouvernement, que ce soit à l'enseignement, soient neutres. Et en fait, derrière cette pensée de neutralité, il y a cette philosophie, cet enseignement que l'homme peut être maître de sa destinée, maître de sa vie, qu'il peut décider lui-même de ce qu'il va faire de sa vie. On entend même des réflexions incroyables, terribles, de gens qui disent « Moi, je veux être maître de ma mort. Je veux décider de ma mort. » C'était un acteur qui est atteint d'une maladie. Moi, je dis « Je déciderai de ma mort. » Il faut penser un petit peu à l'arrogance de l'homme aujourd'hui. Et derrière cet aspect de neutralité, eh bien, il y a la toute-puissance de l'autorité du diable qui est en train de contrôler la vie des hommes et les diriger vers le néant. Alors, vous vous rappelez qu'à la naissance de l'Église, l'Église venait de naître, on va bientôt fêter la Pentecôte. Et vous savez qu'à la Pentecôte, dans le monde entier, on va programmer des réunions, quelquefois deux, trois réunions, des conventions. Souvent, il y a des gros événements, c'est comme à Pâques d'ailleurs. Hein. Et la Pentecôte aussi bien que c'est la date de la naissance de l'Église. C'est l'effusion du Saint-Esprit, où une multitude de personnes ont été touchées, converties à la grâce de Dieu, parce que 120 personnes étaient réunies dans un même endroit et priaient, cherchaient la face de Dieu, en fait aller à la rencontre de Dieu. Et c'est après la Pentecôte qu'on lit dans la parole de Dieu le texte que nous avons lu dans Acte 4, Pierre et Jean allaient ensemble. Pourquoi faire ? Visiter un monument ? Non, ils allaient la Bible ensemble pour prier au temple. Donc, il y a quelque chose qui a été une dynamique qui est née un peu avant la Pentecôte. d'après l'ordre de Jésus, mais surtout après la Pentecôte. C'est cette dynamique de la prière. J'espère que nous sommes dans cette dynamique de la prière partout où je suis passé ces derniers temps. Eh bien, le Saint-Esprit dit la même chose à l'Église. Et il dit à l'Église de combattre, de prier, de jeûner, de prier. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que Dieu veut nous préparer à quelque chose qu'il veut nous donner. Dieu veut nous préparer à quelque chose qui va venir. Dieu veut nous préparer à des temps difficiles pour lesquels on aura besoin de force, on aura besoin de toute la grâce de Dieu pour tenir ferme dans ces jours mauvais. Et si l'Église n'est pas armée, n'est pas prête, n'est pas dans la prière, n'est pas dans le combat spirituel, elle ne résistera pas le jour où l'épreuve ou la tentation viendra. C'est pour ça que la dynamique du Nouveau Testament et la dynamique de la pré-Pentecôte, c'était des hommes et des femmes qui priaient souvent. Les Actes des Apôtres est rempli d'endroits où on voit des hommes et des femmes qui priaient. Et Pierre et Jean allaient au temple quand ils voient un homme qui est impotent, un homme qui est paralysé, un homme qui ne sait pas marcher, et qui est là et qui mendie. Il est à la porte du temple parce qu'il sait bien que là, eh bien, il va y avoir des gens. C'est comme actuellement à Liège, on en a plein, des gens qui se trouvent au feu rouge, avec un petit pot. Ils savent bien que là, il y en a au moins un sur je ne sais pas combien, qui va avoir pitié de lui, mettre une piécette. Ils savent que les gens passent par là. Eh bien, ce mendiant s'était mis là-bas, et il savait que les gens allaient passer, que des centaines et des centaines de gens allaient passer, et qu'il allait pouvoir recevoir quelque chose. Et quand Pierre et Jean, qui vont au temple pour prier, le voient, ils lui disent ceci, vous connaissez cette fameuse parole, ils lui disent, on n'a pas d'or ni d'argent, mais ce qu'on a, on te le donne. Et qu'est-ce qu'ils avaient ? Qu'est-ce que Pierre et Jean avaient reçu ? Eh bien, ils avaient reçu l'autorité de Jésus de prêcher l'Évangile, de guérir les malades et de ressusciter les morts. C'est une autorité qu'ils avaient reçue, comme un droit que Dieu leur avait donné parce qu'ils étaient mandatés par le Seigneur. Et quand Pierre et Jean disent, on n'a pas ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche, eh bien, il exerce tout simplement l'autorité que Jésus leur avait conviée en leur donnant cet ordre. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez induits de la puissance d'en haut, et vous serez ensuite mes témoins. Alors, je vais parler un petit peu de ce pouvoir, de cette autorité que Dieu nous a donnée. Tout d'abord, commençons par le pouvoir de Dieu. Dieu a un pouvoir extraordinaire. La Bible dit qu'au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Il crée l'univers entier. Vous savez, à l'école, on nous a appris, hein, les étudiants le savent, que l'univers vient d'un Big Bang et que finalement, un grand scientifique qui est mort récemment d'ailleurs, lui, il a été explorer un petit peu les confins de l'univers et par la mathématique aussi. Et il a fait cette découverte qu'il n'y a pas de limite à l'univers. Et que l'univers a toujours existé sous différentes formes. Donc il va à l'encontre de la création, de ce que dit Dieu. Alors, Dieu est plus grand que tous nos scientifiques qui sont sur la terre. Eux ne font que dégratiner quelque chose que Dieu contient. Dieu contient. Et la Bible nous dit que Dieu tient le monde dans sa main. On est la puissance de Dieu. Et la terre est son marchepied. Le trône de Dieu est au ciel et la terre est son marchepied. Vous voyez la grandeur et l'immensité de Dieu. Et si on essaye de raisonner ces choses, eh bien, on se heurte aux limites de notre intelligence. Notre intelligence a des limites, on ne pourra pas aller plus loin que ça. Et alors, on dira, mais ce n'est pas possible que ce soit Dieu. Et c'est pour ça que tellement de gens, et dans notre Belgique, et dans l'Europe en général, où tout est très rationnel, où tout est très scindé, analysé, on est très analytique, eh bien, on a du mal, enfin, beaucoup de gens ont du mal à concevoir la foi qui sauve, la foi qui libère, la foi qui pardonne. Alors, le pouvoir de Dieu est illimité. Et si nous avons déjà ça comme credo, si nous avons déjà ça comme acquis dans notre cœur, comme base, eh bien, nous pouvons aller plus loin. Si vous croyez que Dieu est illimité, que son pouvoir est illimité, qu'il peut tout, alors alléluia, nous sommes déjà sur un bon départ. Deuxième pouvoir, deuxième autorité, c'est celui que nous trouvons dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er dit la même chose qu'à la Genèse, sauf qu'à la Genèse, il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Dans Jean, il est dit « Au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, qu'est-ce qui était au commencement de toute chose? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que la parole, elle est esprit et vie. La parole est créative. La parole donne la vie là où il n'y a rien. La parole est là pour promouvoir quelque chose qui est moribond. Et tout à coup, la parole vient et elle nous redonne la vie. Et c'est important pour nous de réaliser que dans la parole, eh bien, il y a une autorité. Hitler avait une parole puissante. Et quand il prêchait, parce qu'il faisait des prédications, vous écoutez les sermons, les paroles de Hitler, il subjuguait les foules. Et les gens étaient comme hypnotisés par le pouvoir de la parole qu'il avait. Ça montre bien qu'il y a un pouvoir dans la parole. La Bible nous dit que le diable est comme un lion rugissant. Il ne parle pas d'un lion physique, ça c'est une image. Mais il dit que ces paroles, c'est des paroles qui paralysent, qui terrorisent, qui tétanisent les gens. Et moi j'ai rencontré des personnes qui sont tétanisées devant leur chef d'entreprise. Quand ils doivent comparaître devant leur chef, eh bien c'est fini, ils perdent nos moyens. Il y a des élèves qui sont tétanisés devant un professeur qui leur fait passer un examen. C'est une autorité, la parole du professeur, etc. Et nous savons qu'il y a une puissance et une parole, une puissance dans la parole. Quand on dit à ses enfants, depuis tout petit, écoute, les gens dehors sont mauvais, ils sont tous mauvais, mais va croire finalement que tout le monde est mauvais. Il va croire ce que tu dis, la parole que tu vas lui communiquer. Et dans des situations de divorce, le plus terrible, c'est quand mari et femme se séparent, ils ont chacun la garde des enfants, et on a vécu cette situation dans l'église aussi. Les mères disent à leurs enfants, ton papa est mauvais. Et l'enfant grandit avec l'image du papa qui est mauvais. Et puis, il y a l'inverse, le papa qui dit sa maman qui est mauvaise. Et l'enfant est là entre les deux, et ils sont finalement... La maman est mauvaise, le papa est mauvais parce qu'il a entendu ses paroles. Alors voyez, si on écoute des paroles d'autorité, des paroles qui sont négatives, des paroles qui sont destructrices, eh bien, on va être influencé par ces paroles. On va marcher selon le critère de ces paroles. C'est pour ça que la parole de Dieu est tellement importante. Quand on la lit, quand on la reçoit, quand on l'écoute lors de la prédication, eh bien, elle a un pouvoir. La parole de Dieu est puissante, capable de changer nos raisonnements, de faire tomber des forteresses de raisonnement. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se convertissent, des athées qui se convertissent, des gens qui... moi, je connais un qui est devenu pasteur, eh bien, il était athée quand je l'ai rencontré la première fois, et c'était une véritable forteresse. Et quand il a entendu la parole de Dieu, une fois, deux fois, ça a été comme un marteau-piqueur. La première fois, ça a été dur. Hein, ça rebondissait, vous avez déjà utilisé un marteau-piqueur, les hommes. Hein, ça rebondit. Mais insistez un petit peu avec le marteau-piqueur, et finalement le trou est percé. Eh bien, avec lui, ça a été ça. Une fois, deux fois, trois fois, et puis, à la énième fois, la parole de Dieu a percé son cœur. Il s'est converti et il est devenu pasteur. Il était autrefois athée. Le pouvoir de la parole de Dieu, c'est pour ça que je vous exhorte à lire la parole de Dieu, à la méditer et à la garder dans votre cœur. Elle a un pouvoir extraordinaire. Troisième chose que j'aimerais vous dire sur le pouvoir, c'est trouver dans Romains chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, persécution, la faim, nudité, péril ou l'épée? C'est-à-dire tous les maux que tu pourrais rencontrer dans ta vie, que nous pourrions rencontrer. La génération précédente a connu la guerre, a connu la famine, a connu des moments très difficiles. Des gens ont vu la mort à côté d'eux, ont perdu des membres de leur famille. Qui nous séparera de l'amour de Dieu, dit l'apôtre Paul. Et il a dit, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, mais il va plus loin, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Et j'aimerais vous parler de la puissance extraordinaire de l'amour de Christ. C'est par amour que moi je me suis converti. J'avais l'amour de mes parents. Mes parents m'ont conduit à l'école du dimanche. Puis quand j'étais adolescent, avec un coup de pied au derrière, ils m'ont envoyé dans un camp de jeunes. Je ne voulais pas y aller. Alors ils m'ont un petit peu forcé. Hein, les jeunes, il faut quelquefois les forcer. Et combien je bénis Dieu pour ce petit coup de main qu'ils m'ont donné. Combien je bénis Dieu. Parce que c'est là que j'ai été saisi par l'amour de Christ, transmis par un homme de Dieu qui était bien âgé. On dit dans un camp de jeunes, d'habitude on choisit des orateurs jeunes. Là c'était un vieux. Vraiment un vieux, hein. En plus, il était américain, il était noir et vieux. Mais nous on l'aimait bien. Parce que quand on plongeait dans la piscine, ils sautaient avec nous dans la piscine et jouaient avec nous. Oh, on était saisis, on montait sur son dos, on essayait de le couler, il était tellement fort. Il était vieux, mais il était fort. Mais ce qui est extraordinaire, c'était l'amour de Dieu qui sortait de lui. Et moi, j'étais gagné par cet amour de Dieu, l'amour de Christ, qu'il transmettait par la prédication de l'Évangile. Et je me suis converti. Et regardez combien d'hommes et de femmes se sont convertis par la puissance de Dieu. La Bible nous parle d'une femme remarquable dans la Bible. Cette femme, elle est au pied de la croix avec d'autres femmes. Cette femme, elle est au cimetière où on a enterré Jésus. Cette femme, vous la connaissez, c'est Marie de Magdala. Marie de Magdala aimait tellement Jésus qu'elle ne pouvait pas s'empêcher d'être près de lui, même quand il est mort et même quand on l'a mis dans la grotte. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand elle vient le matin avec les aromates pour embaumer le corps de celui qu'elle aimait, il n'était plus là. Alors pensez que cette femme, avant cela, était captive de démons. Captive de démons. La Bible nous dit qu'elle avait 7 démons en elle qui la tourmentaient. Qui la tourmentaient nuit et jour, qui faisaient d'elle une esclave. Il y a des femmes et il y a des hommes qui sont esclaves du mal, esclaves du péché, esclaves de tout ce qui est de l'impureté dans ce monde. Et quand elle rencontre Jésus, Jésus la libère de ces 7 démons, parce qu'aucun démon ne résistait à l'autorité des paroles de Jésus. Et quand elle se trouve dans cette grotte et qu'elle voit que la pierre est roulée et que le tombeau est vide, elle pleure. Elle pleure. Où a-t-on mis mon maître? Où a-t-on mis celui que j'aime ? Et puis Jésus apparaît, mais elle ne le reconnaît pas. Il est sous la forme d'un jardinier. Elle croit qu'il est le jardinier. Et elle lui pose la question, « Mais sais-tu où on a mis le corps du Seigneur ?» Et puis Jésus lui dit, « Marie !» Et la manière dont il lui dit, elle reconnaît celui qui l'a aimé, qui l'a délivré. Et elle se jette à ses pieds. « Rabouni, dit-elle, Rabouni !» Avec extraordinaire l'amour de Christ, la puissance de l'amour de Christ. Cette femme avait été délivrée par le pardon et l'amour et la puissance de l'amour de Christ. Et je connais beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont convertis par l'amour de Christ. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais que vous soyez saisis par la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus qui nous aime d'un amour éternel. Il y a aussi le pouvoir, un autre pouvoir, et celui sur lequel je vais peut-être m'arrêter un peu plus, c'est le pouvoir du Saint-Esprit. Nous connaissons les actes des apôtres, le jour du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend sur les 120 qui sont réunis là-bas. Et la Bible nous dit que tout à coup, ils se mirent à parler en langue, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Rempli du Saint-Esprit. Et Jésus leur avait dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance qui va venir d'en haut. Et ensuite, vous serez mes témoins. Est-ce que nous réalisons que Dieu a communiqué une puissance surnaturelle aux hommes de bonne volonté, aux hommes qui croient en lui ? À son Église, à nous. Et nous avons reçu cette puissance extraordinaire, non pas simplement pour nous, bien sûr, elle est d'abord pour nous, puisque grâce à cela, nous allons pouvoir avancer avec plus de force, avec plus de résistance contre l'adversaire, mais on va pouvoir surtout faire la volonté de Dieu, accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Et la première des choses que Dieu nous demande de faire en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, c'est d'être des témoins là où nous sommes, des témoins sur le lieu de travail, des témoins là où nous habitons, des témoins à l'école si vous êtes étudiant, des témoins. Et vous savez qu'à partir du moment où nous sommes chrétiens, nous sommes en contraste avec le monde. Pourquoi le monde ? Pourquoi ? Parce que le monde vit dans les ténèbres. Le monde est sous une autre autorité, sous un autre maître. Et ce maître-là ne supporte pas notre nouveau maître. Il en a horreur. Alors, vous comprenez pourquoi, quelquefois, vous êtes attaqué à l'école, vous êtes attaqué sur le lieu de travail, vous êtes attaqué dans des situations alors que vous n'avez rien fait, rien cherché, et tout à coup, il y a une agression contre vous. Tout à coup, il y a comme une hostilité contre vous. Tout simplement parce qu'il y a une autre autorité sur vous. Une autre puissance, celle de Christ. Mais en plus, si en plus de la conversion, il y a la puissance du Saint-Esprit, le diable ne supporte pas le Saint-Esprit. Il n'a pas de force contre un homme, une femme remplie du Saint-Esprit. Il n'a pas de force contre une église qui est remplie du Saint-Esprit. Il fait ce qu'il veut d'une église qui est morte. Il fait ce qu'il veut d'une église traditionnelle où il n'y a que de la religion. Il la manipule comme il veut. Mais il ne pourra pas faire ça avec une église qui est remplie du Saint-Esprit. Il ne pourra pas faire ça avec des hommes et des femmes qui jeûnent, qui prient, qui combattent et qui cherchent la face de Dieu parce que ce peuple est à l'écoute de la voix de Dieu. Ce peuple veut marcher dans la direction que le Seigneur lui indique. Regardez dans les Actes des Apôtres, l'Église était totalement contrôlée, dirigée par le Saint-Esprit. Les pas des missionnaires qui étaient Paul, Barnabas, Paul et Silas et Paul et toute son équipe étaient conduits d'une manière magistrale par le Saint-Esprit. Quelquefois le Saint-Esprit disait « Non, je ne te permets pas d'aller par là ». L'Esprit leur interdisait d'aller à certains endroits et puis l'Esprit les poussait à aller dans d'autres endroits. Voyez la précision avec laquelle le Saint-Esprit peut conduire un homme, peut conduire une église, peut conduire une famille. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être sous cette autorité. Et quand on est sous l'autorité du Saint-Esprit, eh bien, on peut, à ce moment-là, croire que Dieu va faire quelque chose au travers de nous. Que Dieu va faire des miracles au travers de notre vie. Que Dieu, quand je vais parler à quelqu'un, que Dieu va toucher le cœur de la personne à qui je vais témoigner. Que Dieu va guérir la personne pour laquelle je vais prier. Nous pouvons commencer à le croire. Parce que c'est cette autorité que Dieu nous a donnée. Il y a deux, trois ans d'ici, en Italie, dans le sud de l'Italie, un jeune d'une église monte dans un bus. Et dans cette église, les jeunes évangélisent beaucoup. Ils vont dans les rues, témoignent. Et ce jeune monte dans un bus. Et il est en prière. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit lui dit, lève-toi et parle. Dans le bus. Pensez un petit peu. Le bus, il faut aller en Italie pour voir les bus, comment ils sont. Là, il y en a. Il fait 40 degrés. Les gens sont serrés les uns contre les autres. Personne n'est pratiquement assis, à part les premiers qui ont réussi à avoir une place. Et le Saint-Esprit dit à ce jeune, prêche, parle. Et ce jeune se lève et prêche. Et devant lui, il y a un homme plus âgé qui est là et qui l'écoute. Et cet homme lui dit, tu veux bien arrêter de nous embêter? Et lui, il continue. Et le vieil homme lui dit, mais tu n'as pas encore fini. Tu vois pas que tu embêtes tout le monde? On n'a pas envie de t'écouter. Et tout à coup, il y a un petit garçon, un petit enfant, qui est dans la rangée juste derrière, qui dit à sa maman, maman, pourquoi est-ce que le vieux monsieur lui dit d'arrêter de parler? C'est tellement beau ce qu'il dit. Et la maman crie, elle saute, elle dit, écoutez, qu'elle dit comme ça, mon enfant était muet, mon enfant n'a jamais parlé, et tout à coup cet enfant a été guéri dans le bus, par la parole d'un jeune qui ne savait même pas qu'il avait le don de guérison, il a simplement utilisé la puissance du Saint-Esprit qui était sur lui, il a été obéissant à Dieu. Ça s'est passé il y a quelques années. Ce n'est pas quelque chose d'il y a 100 ans, hein, du temps du grand réveil, non, maintenant. Alors j'aimerais m'encourager, ça doit nous encourager les uns et les autres, de dire que Dieu nous a donné une telle puissance que nous pouvons l'utiliser pour sa gloire. Mais il faut avoir le courage d'être obéissant au moment où il nous le dit. Au moment où il nous dit. Gloire à Dieu. Et je crois que la volonté de Dieu, c'est que l'Église puisse entrer dans cette dimension, moi comme vous d'ailleurs. Et nous prions, et pour le moment avec les jeunes à Grâce-Sologne, nous prions pour que vraiment Dieu puisse faire un puissant réveil. J'étais en Australie quand eux, ils ont eu leur camp, et ils sont revenus complètement révolutionnés de ce camp. Rempli de feu, je disais alléluia, béni soit le Seigneur. J'ai dit à mes anciens, j'ai même plus besoin d'être avec vous maintenant. L'Église peut continuer, moi je vais aller me promener un peu là où Dieu m'envoie. Gloire à Dieu. Vous voyez, Dieu nous a donné une puissance. Vous savez, quand on parle souvent d'Élie, Élie, un homme extraordinaire. Mais la Bible nous parle que Élie était un homme de la même nature que nous. Un homme avec des faiblesses et des forces comme nous. Un homme de la même nature. Ce n'était pas un extraterrestre, c'était un homme normal. Et pourtant, il est dit que, dans la parole de Dieu, que dans 2 Rois, chapitre 1er, que Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, le roi Akazia, le roi d'Israël, tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Donc, il a un accident, il tombe. Et en fut malade. Il a été certainement blessé, puis ça a été très grave. Et ce roi, je vous lis le texte, fit partir des messagers et leur dit, « Allez consulter Baal-Zébub, dieu des crons, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Pensez, le roi d'Israël va consulter une idole pour voir s'il va guérir de sa maladie. Mais il y a un homme de Dieu qui est là, et c'est Élie. Et Élie est en prière. Élie n'est pas à l'endroit où est le roi. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel dit à Élie, « Lève-toi, va à la rencontre de ce messager, et dis-le, et des messagers du roi, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu des crons ?» C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Alors voyez-vous, c'est dramatique ce qui se passe. Un roi d'Israël qui connaît pourtant le Dieu d'Israël, il sait qui est le Dieu d'Israël, va consulter une idole. Tellement on peut s'égarer loin de Dieu, tellement on peut tomber dans l'incrédulité, tellement on peut être complètement devenu étranger aux choses de Dieu. Moi, j'ai connu des chrétiens qui autrefois étaient remplis du Seigneur, remplis du Saint-Esprit, et aujourd'hui sont devenus comme des païens. Ils font exactement ce que font les païens. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est ceci. C'est que quand le roi, finalement, quand les messagers retournent vers le roi lui dit, « Mais pourquoi est-ce que vous revenez ?» Je lui dis, « Mais écoutez, on a rencontré quelqu'un, un homme vraiment bizarre. » Il est comment ? Ben, c'est un homme qui est vêtu de poils et qui a une ceinture de cuir autour des reins. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient habillés comme ça, comme un sauvage. Parce que si vous avez une image d'Élie, Élie était habillé comme quelqu'un qui était vraiment dans la nature, habillé de poils et d'une ceinture, une peau de bête. C'était tout son vêtement. Et tout de suite, le roi a su que c'était Élie. Il y en a qu'un qui est habillé comme ça. Il y en a qu'un qui est fouassé pour se promener comme ça. C'était Élie. Et quelquefois, Dieu va utiliser les choses les plus folles pour manifester sa gloire. Il va utiliser les choses les plus faibles que nous sommes pour manifester sa puissance. Et c'est ce qu'il va faire avec Élie. Et le roi dit ceci, il dit, cet homme, c'est Élie le Tishbite, et il envoie vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes, et ce chef, avec toute son arrogance, vient près d'Élie, qui est assis sur une montagne, sur le sommet d'une montagne, il est là, il est à l'écoute de Dieu, souvent les hommes de Dieu sont à l'écart, ils ne vivent pas comme les autres, ils sont enfermés dans leur chambre, peut-être très tôt le matin ou très tard le soir, vous ne connaissez pas le secret de la vie de votre pasteur, vous ne connaissez pas le secret de la vie des hommes de Dieu. Mais si vous pouviez sonder leur vie, vous comprendriez le combat qu'ils doivent mener, quelquefois, à des heures où vous dormez, à des moments où tout le monde se repose, eux ne se reposent pas. Et Élie était là. Et ce chef, avec toute son arrogance, lui dit ceci, « Homme de Dieu, le roi dit, descends !» Il lui donne un ordre. Et que répond Élie, rempli du Saint-Esprit ? Élie répond à ce chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tous tes hommes. » Et le feu les consume. Si je suis un homme de Dieu, il l'était. Revêtu de la puissance de Dieu. Quand on s'approche de l'homme de Dieu avec arrogance, c'est comme si on s'approchait de Dieu avec arrogance. Vous voyez ? Je pose souvent la question de la manière dont certains chrétiens parle à leur pasteur, parle aux hommes de Dieu, parle aux serviteurs de Dieu. Si Dieu devait exercer la même sentence qu'il l'a fait avec Élie, il n'y en a pas beaucoup qui vivraient encore aujourd'hui. De ces gens-là. Moi, j'ai assisté quand j'étais jeune à une personne qui est montée sur l'estrade et qui a pris le pasteur par le col pour le faire descendre de l'estrade. J'étais jeune à l'époque. J'étais scandalisé de voir ça. Ça ne m'a pas empêché de croire en Dieu, de me convertir, de devenir un serviteur de Dieu moi-même. Et pour vous dire combien on peut user de violence contre les hommes de Dieu, tout en portant le nom de chrétien. Et ici, Élie a dit, si je suis homme de Dieu, que le feu de Dieu descende du ciel. C'était au fait la sentence de Dieu. Et par deux fois, le roi ne va pas comprendre pourquoi ces hommes ont été consumés, il est entêté, il est complètement aveuglé, il envoie encore 50 hommes, et l'autre vient et dit la même chose, et il est consumé. Regardez l'attitude du troisième. Akazia envoya de nouveau un troisième chef. Et ce troisième chef, quand à son arrivée, devant Élie, fléchit les genoux devant Élie, et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs et leurs 50 hommes, mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. » Et regardez ce que dit la parole de Dieu. « L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. » Vous voyez la différence? N'aie aucune crainte de lui. Pourquoi? Parce que cet homme s'était humilié. Cet homme s'était humilié. Et Dieu a épargné cet homme. Alors, l'autorité de Dieu, l'autorité du Saint-Esprit, elle est dans différents domaines de notre vie. Elle est pour l'homme de Dieu, mais elle est pour le chrétien. Elle est pour chacun d'entre nous. Je vais bientôt arriver à ma conclusion. Quand Pierre est arrêté, Jacques est mis à mort par Hérode, et Pierre est arrêté et est mis en prison. Que se passe-t-il? Pierre dort. Il dort du sommeil des justes. Il sait qu'il est avec Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli de la grâce de Dieu. Il dort. Alors qu'il sait que le lendemain, il va mourir. Je ne connais pas beaucoup de prisonniers qui dormiraient la veille de leur sentence. Mais Pierre dormait. Pendant ce temps-là, vous connaissez, n'est-ce pas, les actes des apôtres, l'Église, que faisait-elle? Est-ce qu'elle dormait? Ah non. Parce qu'une Église qui sait que son pasteur est en danger, une Église qui sait qu'un homme de Dieu est en danger, elle ne va pas dormir si elle est conduite par le Saint-Esprit. Si elle aime le Seigneur, si elle est sous l'autorité de l'amour de Christ, elle va tout mettre en route pour prier et faire en sorte que Dieu agisse. Et cette Église s'est mise à prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, la nuit. Ils étaient prêts à prier toute la nuit. Moi, je connais des églises qui prient toutes les nuits. Pas toutes les nuits, je veux dire, toute une nuit. Et pendant que l'Église prie, Dieu intervient et libère Pierre. Et Pierre croit que c'est dans un rêve. Il n'est même pas conscient que c'est la réalité. C'est quand il est dans la rue qu'il ouvre les yeux. Il dit, mais je suis vraiment libre. Ce n'est pas un rêve. Je suis vraiment libre. Et il va vers la maison et il frappe à la porte. Et la servante n'arrive pas à croire que c'est Pierre. Elle est tellement heureuse quand elle entend la voix de Pierre qu'elle va l'annoncer, mais l'Église continue de prier. Elle dit, tais-toi, c'est pas possible. Nous, on prie. On veut que Pierre soit libéré. Mais Pierre est là. Libéré. Libre. Ah oui, c'est un peu humoristique quand on voit cette scène. D'un côté, à l'époque, les femmes, on ne les croyait jamais. Je sais pas pourquoi. Quand les femmes annoncent que Jésus, que le tombeau est vide, il n'y a personne qui croit. Il y a des hommes qui doivent aller voir. Il y a Pierre et Jean qui vont courir. Et finalement, ils vont croire ce que les femmes ont dit. C'était une époque comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça encore maintenant. Hein. Mais ils n'ont pas cru la servante. Mais c'est quand elle a insisté, quand Pierre a insisté, que finalement l'Église s'est réjouie. Et regardez ce que va dire l'Église. L'Église, après cela, va continuer de prier. Et Dieu va ajouter à l'Église tous ceux qui étaient destinés au salut. La prière de l'Église, c'était « Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Ça, c'était la prière de l'Église. Je crois qu'on doit maintenant prier dans cette direction. En tant qu'Église, nous à Grasse-Ologne, vous ici à Villers et dans toute la Belgique, je priais récemment, je disais « Seigneur, en fait c'était ce matin, je priais, je disais « Seigneur, envoie un réveil dans ce pays, que dans chaque lieu de culte, il y ait une onction du Saint-Esprit sur ton peuple, sur l'Église. Alléluia. Et fais, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs pour qu'ils se convertissent, qu'ils soient libérés, qu'ils soient guéris, au nom de Jésus. » Ça, c'est l'autorité que Dieu nous a donnée. Alors, j'arrive à ma conclusion. Sous quelle autorité est-ce que je vis aujourd'hui? Voyez, si un chrétien vit dans la peur, s'il vit dans la timidité, la crainte, s'il vit dans la colère, s'il vit dans le mensonge, il n'est pas sous l'autorité de Christ. Je parle d'un chrétien, hein, pas du monde, hein, un chrétien. Il est sous l'autorité de l'adversaire, tout en étant chrétien. Parce qu'on peut aussi être chrétien et être conduit par la chair. On peut être chrétien et séduit par l'adversaire. On peut être chrétien et tomber dans les pièges du diable. On peut être chrétien et ne jamais vivre la victoire. Et ça, ce n'est certainement pas la volonté de Dieu. Mais ce matin, sous quelle autorité est-ce que je veux vivre? Sous quelle autorité est-ce que je veux commencer cette semaine? Sous quelle autorité est-ce que je veux voir ma famille? Il y a des familles où l'autorité, c'est pas Dieu, c'est autre chose. Récemment, nous avons parlé avec mon épouse, une sœur qui demande de l'aide de l'Église sur le plan matériel. Et cette sœur, elle est sous l'autorité de ses enfants, qui ne sont pas chrétiens. Ses enfants qui l'ont presque obligée à s'endetter, lui ont fait signer des prêts qu'il ne rembourse pas, et elle se retrouve dans l'impossibilité même de vivre. Et alors, quand on lui a parlé, on lui a dit, mais est-ce que tu as écouté la voix de Dieu quand tu as fait ça? Non, j'aurais dû venir vous en parler. Mais je dis, oui, mais voilà, maintenant c'est trop tard. Et elle est tombée sous la coupe de l'adversaire, de celui qui nous rend esclaves. C'est jamais la volonté de Dieu qu'on devienne tributaire de ces enfants qui sont adultes et qui profitent d'une maman chrétienne. Jamais la volonté de Dieu. Et ne signez jamais des prêts pour vos enfants, même si ce sont vos enfants, pour vous endetter. Malheureusement, ça se passe. Alors, on a beaucoup de situations où, quelquefois, l'Église est paralysée par ces états de choses. Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu pour nous rendre totalement libres. Celui que le Fils libère est vraiment libre. Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si on manque de sagesse, eh bien la Bible dit demandez-le à Dieu, mais demandez-le au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il nous remplira de sagesse. À des moments précis, il te dira, non, ne prends pas la décision. Ce n'est pas le moment. Tu dois d'abord régler ça. À d'autres moments, il te dira, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il te dira peut-être par la bouche de ton pasteur ou d'un chrétien mûr dans l'Église. Le diable voudra que tu écoutes quelqu'un d'autre qui te dira le contraire du pasteur ou de l'ancien pour mettre de la confusion ou pour alimenter ton désir personnel. Et là, tu vas dire oui. Ah, ça, c'est la voix de Dieu. Et puis, tu tombes dans le traquenard. Alors, écoutons la voix de Dieu. Soyons conduits par le Saint-Esprit. Soyons sous l'autorité du Saint-Esprit. Et vous allez voir combien Dieu va nous aider, va nous libérer. Combien Dieu va nous bénir. Et les personnes qui sont tordues de la vie, qui sont malades, qui sont désespérées, qui sont liées, comme Marie de Magdala. Il y a des gens, vous voyez, Marie de Magdala avait 7 démons. Et bien, il y a des gens qui ont plusieurs démons et qui vont rentrer dans nos églises. Comment est-ce que ces gens vont recevoir l'évangile quand ils seront libérés? Quand ils seront libérés. Et si l'Église n'a pas la force de prier pour ces situations-là, eh bien, elle ne pourra pas avoir ces délivrances. Alors ce matin, nous allons prier ensemble. Nous allons nous incliner devant le Seigneur. Je repose la question, sous quelle autorité sommes-nous? Et si tu es sous la mauvaise autorité, veux-tu ce matin que Jésus reprenne sa place, son pouvoir, te redonne la force, te redonne le courage, te redonne la foi? Dans les derniers temps, dit Jésus, trouverai-je encore la foi sur la terre? Parce que plusieurs abandonneront, pas nécessairement l'Église, le lieu du culte, mais abandonneront la foi, n'auront plus la foi de croire que ce soit possible, de croire que Dieu peut résoudre ce problème, de croire que Dieu peut sauver mon mari, ma femme ou mes enfants, de croire que Dieu peut changer une situation, la foi. Alors j'aimerais prier pour quelques personnes, même si il n'y en a qu'une, je prierai pour elle, afin que Dieu puisse te donner de nouveau cette puissance, cette force, cette autorité que tu as laissé glisser entre tes doigts par les mensonges du diable, par les circonstances de la vie. Alors tous les yeux sont fermés maintenant, nous sommes devant le Seigneur. Peut-être que tu ne connais pas du tout le Seigneur Jésus. Tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus. Mais sache que tu n'es pas neutre. Tu es sous l'autorité du destructeur et veut te détruire. C'est ce qu'il poursuit avec toute l'humanité. Et c'est pour toi que je prierai tout d'abord. S'il y avait quelqu'un qui n'a pas encore donné son cœur à Jésus, que tu sois jeune, que tu sois plus âgé, sache que il n'y a pas 3 mètres où tu appartiens à Dieu, qui te veut ton bonheur, qui a un programme de bonheur pour ta vie, où tu appartiens au diable qui veut ta destruction, qui veut ton esclavage, qui veut te salir et te détruire. J'aimerais prier pour toi d'abord. Lève ta main. Si tu veux donner ton cœur à Jésus, si tu veux lui appartenir, si tu veux changer de vie, s'il y avait quelqu'un, tu lèves ta main et je prierai au nom de Jésus pour que la grâce de Dieu tombe sur ta vie. Ça, c'est le premier appel. Deuxième, il s'adresse aux chrétiens. Si tu as besoin de retrouver l'autorité, la véritable autorité, au nom de Jésus, pour ta vie, pour ta marche, pour ta vie chrétienne, j'aimerais que tu lèves ta main. On priera ensemble, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, il y a encore quelqu'un. Le Seigneur voit la main allumée, oui. Oui, plusieurs mains. Allez, nous allons tous nous lever maintenant. J'aimerais que les personnes qui ont levé leurs mains, vous veniez près de moi ici. On va prier ensemble. Venez près de moi. Si vous avez levé votre main, n'ayez pas peur. On va prier au nom de Jésus.